RCFM, c'est votre jour de science. Fabrice Fenouillère, Christophe Zagaï.
Fabrice, bonsoir.
Bonsoir Christophe.
Comment ça va?
Très très bien, et vous?
Très bien. Alors, et cette semaine, on a le plaisir de recevoir à nouveau le sociologue historien de l'alimentation, Éric Birlouez, pour une émission instructive et passionnante autour de la grande histoire des poisons, non pas des poissons, des empoisonnements et des empoisonneurs, titre de son ouvrage paru dernièrement chez Ouest France.
C'est vrai Christophe qu'on a eu envie, dans notre émission C'est votre jour de science, de rappeler comme ça quelquefois des historiens, des scientifiques et des chercheurs qu'on adore écouter, dont la passion est contagieuse, le savoir précieux, et c'est vraiment le cas d'Éric Birlouez, ingénieur agronome de formation, sociologue et historien de l'alimentation, ça vous l'avez dit, chargé d'enseignement dans plusieurs universités ou dans des écoles prestigieuses, également auteur de très nombreux ouvrages. Il nous racontait il y a quelques mois la grande histoire de l'alimentation, et là on a voulu le convoquer avec nous sur les poisons. On va ouvrir avec lui cette grande fiole de la connaissance, remplie donc de poisons en tout genre, qui depuis la nuit des temps semblent être les armes sournoises du crime parfait. Mais où se cache-t-il dans la nature? Cléopâtre, Socrate ou Napoléon les ont-ils vraiment côtoyés d'un peu trop près? Et savamment doser ces mêmes poisons, ne seraient-ils pas aussi des remèdes? Une enquête qui débute tout de suite.
C'est votre jour de science, l'expert.
Bonsoir Éric Birlouez.
Oui, bonsoir Christophe, bonsoir Fabrice.
Bonsoir cher Éric.
Merci d'être avec nous à nouveau dans cette émission, c'est votre jour de science. Alors la première question qu'on a envie de vous poser, Fabrice, question simple ou compliquée, on va voir selon vos réponses. C'est quoi au juste la définition d'un poison?
Alors c'est quoi un poison? Ce qu'on appelle poison, en tout cas aujourd'hui, parce que la définition a changé au cours du temps, c'est une substance, n'importe quelle substance finalement, qui va occasionner chez des organismes vivants, alors des humains bien évidemment, mais ça peut être des animaux, qui va occasionner des blessures, des maladies ou la mort, avec cette précision que le poison va agir en provoquant des réactions chimiques au sein de l'organisme, à la différence par exemple d'une bulle d'air dans le sang ou d'un caillot ou de radiation nucléaire qui ne sont pas des poisons parce que eux ce sont des agents physiques. Donc c'est tout type de substance qui va avoir sur un organisme vivant qui va le rendre malade, voire le tuer, mais en agissant à l'échelle moléculaire, donc chimique.
Est-ce qu'on a une idée, Éric, des premières traces qu'on a pu retrouver d'empoisonnement?
Alors, avant même d'ailleurs de parler d'empoisonnement, on pense que les premiers poisons ont été utilisés par les hommes préhistoriques pour la chasse. C'est-à-dire qu'ils avaient pu constater que certaines substances étaient toxiques et qu'en finalement, en trempant la pointe de leur sagaie, de leur flèche, dans ces substances toxiques, eh bien, c'était formidable pour immobiliser, pour tuer des proies. On a d'ailleurs une jolie légende à propos du curare, puisque le curare, c'est un mélange de, enfin, le poison, mais qui est issu d'un mélange de plantes toxiques, notamment de lianes, de la forêt amazonienne. Alors, la légende raconte qu'un jour, un chasseur a vu un oiseau de proie avec ses griffes griffer l'écorce d'un arbre, et puis cet oiseau ensuite s'est précipité vers un autre oiseau ou un animal qu'il voulait, et que cet animal s'est immobilisé, et donc le chasseur a eu l'idée de frotter la pointe de ses flèches contre la liane qu'avait griffé le rapace, et il s'est rendu compte de l'efficacité de son arme de chasse qui pouvait paralyser donc le gibier qui était chassé. Donc utilisation sans doute très ancienne, et avant d'avoir l'idée d'empoisonner sa belle-mère ou sa tante dont on pouvait éventuellement hériter, ou de faire disparaître un rival ou un ennemi, utilisation probablement pour la chasse.
Comment un poison pénètre-t-il dans notre corps, techniquement, physiologiquement, Éric?
Alors, il y a effectivement plusieurs manières pour qu'un poison puisse entrer dans le corps. Alors, il y a d'abord l'ingestion, c'est-à-dire que on l'avale, le poison est contenu par exemple dans un aliment, dans de l'eau aussi, du vin, donc il parvient au niveau de l'intestin et puis il passe dans le sang. Mais on peut également inhaler les toxines du poison, donc c'est la voie respiratoire, ça rentre d'abord dans les poumons, puis ensuite ça rentre dans les vaisseaux sanguins. Ça peut être la peau, Le poison peut rentrer par une plaie, par une coupure, ça peut être par injection également. Alors on pense à la seringue, mais ça peut être également le dard du scorpion ou les crochets du serpent, ça peut être par les yeux, etc. Alors c'est intéressant cette question du mode de pénétration dans le corps, du mode d'exposition, parce que ça peut être un facteur de toxicité. Pour prendre un exemple, on sait que le mercure, par exemple, eh bien, c'est beaucoup plus toxique lorsque le mercure est inhalé sous forme de vapeur que lorsqu'il est ingéré, parce que l'élément mercure franchit difficilement la barrière intestinale. Par contre, si vous respirez des vapeurs de mercure, là, vous pouvez être intoxiqué. Bon, il y a un autre exemple également, qui sont les graines de ricin. Alors, le ricin, c'est un arbuste qu'on va trouver comme arbuste décoratif dans nos jardins publics, qui est extrêmement toxique. Alors, pas si vous avalez les graines de ricin sans les mâcher, en revanche, si vous les mâchez, vous détruisez l'enveloppe de la graine et là, vous libérez finalement les molécules les plus toxiques. Donc, la manière dont on va l'incorporer va avoir une influence parfois du tout au rien, enfin du rien au tout plutôt, sur la toxicité de la molécule.
Et même s'il est d'origine tropicale, le ricin, vous l'avez dit, est très présent aujourd'hui, importé hein, dans nos parcs.
On
le trouve beaucoup à Bastia, notamment à côté des écoles primaires. Faire attention
hein,
quand on sort. On était justement dans la nature là, avec vous, Eric. Concrètement, ces poisons, on les trouve d'origine végétale, on en a déjà un peu parlé,
oui.
On a cité notamment le ricin, mais alors vous avez
absolument
cité le mercure, peut-être un peu aussi minéral, dans
oui
les champignons.
Oui, finalement partout dans la nature, c'est à la fois dans le règne végétal, des végétaux chlorophylliens, donc ça c'est alors on peut donner quelques exemples rapides, enfin il y en a énormément, il y a la mandragore, il y a le l'aconite, il y a le datura, la juscia, mais peut-être plus connu finalement la digita, le lif, le hou, le laurier rose,
oui,
qui est également une plante assez courante dans nos jardins, dans nos parcs, le colchique d'automne également. Alors évidemment tout dépend de la dose, mais on a quand même des molécules dans ces végétaux qui sont toxiques. Donc ça c'est pour le règne végétal, quelques exemples. Également dans le règne des champignons, qui ne sont pas des végétaux, c'est un règne à part. Alors évidemment, on va penser tout de suite à la manite tumouche, à la manite phalloïde, qui peuvent être à petite dose hallucinatoires, mais qui à forte dose peuvent être carrément totalement mortelles. Mais il y a aussi des champignons microscopiques, on n'y pense pas toujours, les moisissures, les levures. On a par exemple l'aspergillus, qui est une moisissure qui se développe sur les graines et notamment d'arachide dans les régions chaudes et humides d'Afrique. Et puis au Moyen-Âge, on avait un terrible fléau qui était l'ergot de seigle, qui était en fait occasionné par une mycotoxine, c'est-à-dire une toxine sécrétée par une moisissure et qui faisait véritablement des ravages dans la population. On a les animaux, bien sûr, on pense aux serpents, on pense aux scorpions, il y a dans la forêt amazonienne de Colombie, par exemple, des toutes petites grenouilles très jolies avec des couleurs flashy, bleu, jaune, etc. Et il suffit de recueillir sur la peau de ces grenouilles quelques gouttes finalement de substances toxiques pour tuer avec ce qu'on va extraire d'une seule grenouille une dizaine d'hommes adultes. Et on dit même que les Indiens d'Amazonie torturaient les grenouilles pour qu'elles excrètent le maximum de substances toxiques par la peau et qu'ensuite ils pouvaient les récupérer, notamment pour la chasse. On a le fugu, hein, qui est ce mets dont raffolent certains Japonais et qui est un poisson qui peut se révéler mortel si il n'a pas été correctement préparé par le cuisinier. Et puis il y a des bactéries, et puis il y a les poisons minéraux. On a évoqué le mercure, on pourrait évoquer également le plomb, on pourrait évoquer également l'arsenic.
Et le rapport entre poisson et poison, on le connaît chez nous avec Oubaté, loin, qui est dans les rivières empoisonnées aussi, quelques truites autrefois.
Les méduses, etc. Ouais.
Vous écrivez, Eric, notamment dans votre ouvrage, que dans le poison se trouve le remède. Tout n'est donc qu'une question de dosage ?
Oui, alors dans beaucoup de, pas dans tous les cas, mais en tout cas dans beaucoup de cas, et ça c'est quelque chose qu'on sait depuis longtemps, tout simplement parce que les individus étaient très observateurs et ils se rendaient compte que si une plante, par exemple, était très toxique à dose élevée, à dose plus faible, au contraire, elle pouvait être bénéfique à la santé. Et c'est d'ailleurs le sens du mot poison à l'origine, ça vient d'un mot latin, potionem, qui désignait à la fois le caractère mortel, dangereux d'une substance, mais aussi le fait que cette substance pouvait être un remède. Donc, on a bien cette ambivalence. Pour donner quelques exemples, il y a par exemple l'écorce de saule qui était employée depuis les temps préhistoriques pour faire tomber la fièvre. C'est le principe, on sait qu'on va en extraire de l'écorce de saule aujourd'hui le principe actif de l'aspirine, mais à forte dose, c'est une molécule l'écorce de saule est très toxique. Par exemple, la mandragore, qui est vraiment l'herbe emblématique des empoisonneuses du Moyen-Âge, eh bien, la mandragore, elle était utilisée à l'époque en petite quantité pour atténuer les douleurs des femmes qui accouchaient. Le colchique, par exemple, était un remède contre la goutte et on extrait d'ailleurs la colchicine de cette plante qui est un médicament utilisé pour les personnes qui souffrent de la goutte. On pourrait en citer comme ça tout un tas de substances qui, à petite dose, sont des remèdes, à dose élevée, sont toxiques et on attribue à, c'est une réalité d'ailleurs, à Paracelse, grand médecin de la Renaissance du 15e siècle, la célèbre formule selon laquelle rien n'est poison, tout est poison, c'est la dose qui fait le poison. Alors on sait que c'est aujourd'hui, avec les perturbateurs endocriniens, que c'est un petit peu plus complexe que ça. C'est pas toujours la dose qui fait le poison, mais ça c'est un autre sujet.
Vous restez avec nous, Éric Birlouez. On parle de la grande histoire des poisons, des empoisonnements et des empoisonneurs. C'est d'ailleurs le titre de votre ouvrage paru dernièrement chez Ouest France. Vous êtes notre invité cette semaine dans C'est votre jour de science sur RCFM.
France Bleu, RCFM. France Bleu.
Dans le port de Saïgon est une jonque chinoise, mystérieuse et sournoise, dont on ne connaît pas le nom. Et le soir dans l'entrepont, quand la nuit se fait complice, des Européens se glissent, cherchant des coussins profonds. Opium, poison de rêve, fumée qui monte au ciel, c'est toi qui nous élève au paradis artificiel. Je vois son doux visage, les yeux de mon aimé. Par toi, j'ai son image dans ton nuage de fumée. À l'abri du demi-jour, les lanternes qui se voilent sont de sinistres étoiles qui pâlissent tour à tour. Et le soir au parfum lourd, au gré de la fumée lente, le fumeur se représente ses plus beaux rêves d'amour. Opium, poison de rêve, fumée qui monte au ciel, c'est toi qui nous élève au paradis artificiel. Les yeux de mon aimé. Par toi, j'ai son image dans ton nuage de fumée.
Opium avec le grand Taobi.
C'est votre votre jour de science, l'expert.
Opium pour parler de la grande histoire des poisons, des empoisonnements et des empoisonneurs. Notre invité, c'est Éric Berlouez. C'est d'ailleurs le titre de son ouvrage, La grande histoire des poisons, des empoisonnements et des empoisonneurs, paru récemment aux éditions Ouest France. Alors, on va parler à présent des empoisonnements célèbres avec vous, Éric Berlouez. Alors, on pense notamment à Socrate, condamné à boire de la ciguë, le pauvre
oui.
Socrate.
Voilà. Et alors, juste avant, si vous permettez, Christophe, oui. Petite précision que j'ai oubliée, c'est que l'actualité nous a rappelé qu'il y avait des poisons d'un genre particulier qui étaient utilisés. Alors, par exemple, on a eu l'empoisonnement au polonium 210 d'un dissident russe. Il y a eu le président ukrainien, ça c'était en 2004, oui. Donc 2 ans avant, Yushchenko, qui lui n'est pas mort, mais a été la cible d'un empoisonnement à la dioxine au cours de sa campagne électorale. Et puis plus près de nous, on a parlé en 2017 du Novichok, hein, donc ce poison neurotoxique avec l'empoisonnement de l'ancien agent russe Sergueï Skripal. Donc les poisons, ça n'appartient pas à l'histoire ancienne, il y a encore aujourd'hui cette utilisation. Alors revenons à l'histoire ancienne, c'est-à-dire à Socrate, hein, qui était votre question. Effectivement, alors ce qui est intéressant, c'est que en réalité, on ne sait pas si Socrate a réellement bu réellement de la ciguë. On a utilisé effectivement à Athènes un poison d'État. Il a dû effectivement ingérer ce poison pour c'était sa condamnation à mort. Mais Platon, qui rapporte les derniers instants de Socrate, lui ne parle pas de ciguë, il parle de pharmakon, donc le mot grec pharmakon, qui signifie la drogue, donc une substance qui a eu cet effet mortel, mais dont on ne sait pas si c'est la ciguë. Et on se pose vraiment la question, enfin en tout cas les historiens se posent la question, car la description que fait Platon des derniers instants de Socrate, ça correspond pas en fait aux symptômes d'une intoxication par la ciguë, hein, parce que dans ce cas-là, on a des yeux exorbités, de la bave qui sort de la bouche, des convulsions, des délires, des souffrances atroces. C'est pas du tout la description que nous fait Platon. Alors peut-être qu'il a voulu montrer que son maître Socrate était mort dignement. En tout cas, et donc il aurait passé volontairement sous silence les souffrances. Et d'autres disent, mais il n'est pas impossible, ça se pratiquait à l'époque, qu'à la ciguë, on ajoute, justement pour réduire un peu les affres de l'agonie, qu'on ajoute des substances plutôt apaisantes, comme notamment l'opium extrait du pavot. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le poison d'État n'est pas seulement utilisé par les États-Unis, dans certains États américains, mais l'était déjà à l'époque de Socrate.
Et puis dans ces empoisonnements célèbres, on pense aussi évidemment à celui de Cléopâtre, sans doute volontaire.
Oui.
Et c'est quoi, un cobra ?
Oui, alors c'est ce que l'on a dit, effectivement, on est toujours dans l'Antiquité, donc Cléopâtre décide, humilié, et donc décide de se suicider. Alors, on n'est pas certain qu'il s'agisse d'un cobra, on a eu d'autres auteurs latins qui disent que Cléopâtre se serait en fait donné la mort en ingérant du poison, mais que ce poison aurait été caché dans le creux d'un peigne ou d'une épingle à cheveux. Mais c'est vrai que ce que nous avons retenu, c'est souvent cette histoire du cobra. Il y a même une légende qui dit que Cléopâtre aurait fait tester différents poisons sur des esclaves, sur des condamnés, et que finalement, à l'issue de ces expériences, elle aurait fait son choix qui aurait été le venin du serpent aspic. Donc on n'en est pas sûr, et c'est pas impossible que ce soit un reptile, effectivement un serpent qui aurait été utilisé par Cléopâtre pour se donner la mort.
Et on avait eu la chance de recevoir dans une précédente émission C'est votre jour de science, un des spécialistes de Cléopâtre qui nous disait que voilà, il y avait même une potentielle idée d'un serpent qui serait enroulé tel un panier contenant lui-même quelques figues, pense-t-on.
Voilà. Oui. Il y a aussi cette hypothèse des figues, effectivement.
Ah ouais. Et une bague célèbre, j'ai envie de vous entendre sur ça. Éric, on a eu la chance à Galet de vous recevoir sur cette thématique il n'y a pas longtemps. C'était absolument génial de vous écouter. César Borgia, le pape à cette époque de son état, qui faisait baiser sa bague remplie de poison.
Oui, alors il y a effectivement beaucoup de donc ce pape Borgia, donc pape Alexandre VI, qui est vraiment laissé dans l'histoire l'image d'un homme assez assez abominable, avec une grande cruauté, qui se débarrassait de tous ses ennemis, des cardinaux d'ailleurs également, parce que en tant que pape, il pouvait hériter de la fortune des cardinaux. Alors il s'arrangeait évidemment pour attendre un peu que les cardinaux se soient suffisamment enrichis avant de les faire disparaître. Et une des techniques qu'il utilisait, c'était effectivement la bague contenant du poison et qu'il fallait embrasser. Une autre technique aurait consisté à donner à un de ses visiteurs qu'il voulait empoisonner une petite clé en lui demandant de bien vouloir ouvrir une armoire. Et voilà, la clé rentre pas bien dans la serrure, il faut forcer un petit peu. Et en fait, on se blesse à la clé en voulant ouvrir la serrure. Et la pointe de la clé, enfin cette clé comporte une petite pointe enduite de poison. Et on se blesse mortellement en voulant donc tourner cette clé dans la serrure. Donc il ne manquait pas d'imagination. Et on dit que lui-même est mort finalement de son...
De sa technique, du
poison à l'occasion d'un repas où il voulait empoisonner une fois de plus, mais là malheureusement c'est lui qui a été empoisonné.
Éric Berlouez, dans le cas de Napoléon, les historiens, les scientifiques, est-ce qu'ils ont enfin tranché?
Oui, en fait ils ont tranché pour dire que non, Napoléon est très certainement mort, comme on l'a dit au début lors de la première autopsie de l'empereur, est mort d'un cancer de l'estomac et qu'il n'a pas été empoisonné. Mais c'est vrai que cette thèse de l'empoisonnement à l'arsenic, elle a été formulée, puis abandonnée, revenue au goût du jour, etc. En fait, tout est parti d'un dentiste suédois, c'était dans les années 1960, qui lui n'a pas cru à la thèse de la mort naturelle, enfin par cancer de l'estomac de Napoléon, et qui a imaginé un empoisonnement à l'arsenic parce qu'il a cru déceler les symptômes d'un empoisonnement à l'arsenic dans les mémoires du valet de chambre de Napoléon à Sainte-Hélène. Et il a fait analyser des cheveux, des mèches de cheveux de Napoléon, et on a effectivement trouvé, c'est une réalité, des concentrations en arsenic très importantes dans ces mèches de cheveux. Et puis on a un peu oublié cette histoire, et plus récemment, c'était en 2001, donc il y a à peine une vingtaine d'années, un Américain a relancé cette histoire, a fait refaire des analyses qui ont montré que l'arsenic avait pénétré à l'intérieur du cheveu, ce qui allait plutôt confirmer la thèse d'un empoisonnement à l'arsenic. Bon, mais aujourd'hui, ce que disent la plupart des experts, c'est que en réalité, cet empoisonnement l'arsenic contenu dans les cheveux de Napoléon aurait une origine exogène. À Sainte-Hélène, il fait pas très chaud, il pleut souvent, on fait du feu de cheminée et le bois, la combustion du bois dégage de l'arsenic. On a aussi parlé des papiers peints où, de manière sans doute encore plus plausible, le fait que les cheveux de l'empereur étaient, pour être conservés dans des médaillons, eh bien, on les saupoudrait d'un mélange d'arsenic. Et c'est probablement ce mélange qui était utilisé à des fins de conservation des mèches de cheveux de l'empereur, qui aurait contaminé directement les cheveux, et que Napoléon serait mort d'un cancer de l'estomac. Certes, ses cheveux contenaient de l'arsenic, mais cet arsenic n'était pas le résultat d'un empoisonnement. Voilà, et d'autant plus que on sait que les mèches de cheveux qui ont été analysées, pour certaines d'entre elles, dataient de 16 années, avait été coupé 16 ans avant la mort de l'empereur, donc 10 ans avant son arrivée à Sainte-Hélène. Et là, on se dit que si meurtrier, si empoisonneur il y avait, il fallait qu'il soit vraiment très très patient pour attendre 16 ans la mort de l'empereur. Et on ne voyait pas très bien finalement l'intérêt de le supprimer, puisque de toute manière, il était hors d'état de nuire sur son île isolée de Sainte-Hélène.
Et pour terminer, malheureusement, j'ai envie de dire tellement, c'est un bonheur à chaque fois de vous écouter. On se regarde avec Christophe, on pourrait continuer des heures avec vous, Éric Berlouez. Peut-être avoir votre avis sur ces poisons d'aujourd'hui, hein, on a parlé tout à l'heure de contemporains aussi.
Oui.
Que pourrait être le sucre ou la viande à forte dose? Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, alors, là encore, c'est une question de dose, sans doute excessive de parler de poison, mais dans le domaine de l'alimentation, comme dans d'autres domaines, c'est l'excès qui, à mon sens, est dangereux. On a, de toute manière, dans le cas de la viande, on a des recommandations officielles des autorités de santé qui nous disent ne dépassez pas 500 grammes de viande par semaine, hors charcuterie, et d'ailleurs 80% des Français dans une enquête récente ne dépassent pas cette consommation de viande par semaine. Donc on peut manger de la viande. La viande n'est pas du tout en soi un poison, à condition évidemment qu'elle soit de bonne qualité. Là encore, ce qui va compter, c'est la quantité consommée. Le sucre, c'est la même chose, un peu de sucre. Le sucre était recherché avec beaucoup d'avidité autrefois par nos ancêtres préhistoriques, qu'ils trouvaient dans les fruits, dans les baies, dans le miel, parce que notre cerveau a besoin, notamment notre cerveau, a besoin de cette énergie immédiatement disponible. Mais bien évidemment, trop de sucre est néfaste à la santé.
Et puis une des questions finales pourrait aussi être, on pourrait tous se la poser, est-ce que l'homme lui-même n'est-il pas un poison ? Je pense notamment aux méfaits
oui.
par rapport à la planète tout simplement.
Hein. Voilà.
Alors est-ce qu'on nous met dans cette catégorie ou pas ?
Alors,
c'est compliqué
oui.
ça.
En tout cas, c'est sûr que l'homme a une action qu'on connaît bien aujourd'hui, qui est négative hein, sur son environnement, et il se met lui-même en danger. Finalement, la question, ça n'est pas celle de la planète qui va toujours s'en sortir,
bien
parce
sûr.
Qu'elle l'a fait depuis des milliards d'années, mais évidemment, l'humanité et même la présence de vie sur la Terre qui... mais d'une certaine manière, on pourrait dire que l'homme, par ses excès, encore une fois, s'auto-empoisonne, c'est-à-dire génère un petit peu les risques de sa propre disparition.
La grande histoire des poisons, des empoisonnements, des empoisonneurs, titre de votre ouvrage, Éric Birlouez, paru aux éditions Ouest France. Je pense que nos éditeurs vont courir l'acheter tellement que vos propos sont passionnants et le sujet aussi.
Voilà, et je précise juste que pour ne pas décevoir les lecteurs qui ne trouveront pas de recettes, de formules secrètes pour confectionner des poisons. Mon éthique personnelle m'a interdit d'aller jusque-là.
Bon, tant mieux.
Tant pis pour les belles-mères. Merci Éric Birlouez.
Tant mieux.
Merci Éric.
Merci vite.
À tous les deux.
Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
C'est votre jour de science dans l'actu.
Qu'est-ce que vous avez trouvé de beau, mon cher Fabrice, cette
semaine ? Un truc qui est très intéressant pour tous les auditeurs. On va leur demander de bien tendre les oreilles. Ça pourrait changer leur vie quotidienne de manière très simple. Bon, une question comme toujours pour commencer un peu personnelle. Vous qui ne faites évidemment, et on le voit notamment en présentation de météo, aucune faute de goût vestimentaire, est-ce que vous dormez en chaussettes ?
Je vous pose des questions.
Non, mais c'est oui ou non la réponse. Est-ce que vous dormez en chaussettes ?
Non, mon cher Fabrice.
Bon, eh bien vous avez tort, car la science vient de nous apprendre que dormir en chaussettes, écoutez bien, à défaut évidemment d'être très glamour, je vous le concède, améliorerait considérablement notre sommeil et par conséquent notre état de santé. Eh oui. Selon les chercheurs sud-coréens, se glisser dans nos draps, les pieds emmitouflés, nous permettrait de mettre en moyenne 7 minutes de moins à nous endormir, nous ferait nous réveiller 7 fois moins durant la nuit et prolongerait notre sommeil de 32 minutes. La raison de ces bienfaits, c'est la température des pieds qui augmente d'environ 1,3 degré et se diffuse dans le reste de notre corps selon le principe connu de la thermorégulation, ce qui nous tient donc plus confortablement serrés dans les bras de Morphée. Quant au bonnet de nuit... Quant au bonnet de nuit, je sais que vous l'avez régulièrement à côté de vous. C'est un de vos trucs, ça par contre, au niveau du sommeil. Vous me l'avez confié hors émission. Eh bien, pour le moment, il n'y a pas d'études sur le sujet. Je vous propose donc à tout jamais de l'enlever.
Fabrice, une question aussi. Alors, je ne sais pas, je pense que ça vous est déjà arrivé. Vous avez déjà plongé dans du coca avec une combinaison Mentos ?
Oui, il y a 4 jours. Comment vous le savez ? Pour tout dire, 4 jours, jour pour jour.
Non, mais c'est vrai ?
Oui, sérieusement.
Ouais. Ça fait quoi ?
Ça pétille.
Exactement. Alors, dans le genre, je suis débile, mais j'assume totalement ma connerie. Voici le mec qui a décidé de plonger dans un bac rempli de coca vêtu d'une combinaison faite de Mentos. C'est un cocktail bien connu pour être donc explosif.
Carrément.
Alors, notre héros du jour s'appelle Harley Morenstein. Il est américain. L'effet geyser donc du mélange Mentos et du coca est lié au dégazage brutal du dioxyde de carbone dissous dans la boisson gazeuse lors de l'immersion du Mentos. Alors, ce geyser est produit par une drôle de réaction naturelle. naturelle. En fait, en effectuant ce mélange, le dioxyde de carbone présent dans la boisson va alors brusquement se dégager. Cela est dû au fait de la surface poreuse du bonbon. Sur le manteau, on trouve un grand nombre d'aspérités, très fines, très petites. Ainsi, quand on les plonge dans le coca, de très nombreuses bulles de gaz carbonique vont se former. Et ce gaz se dissout très rapidement et va alors faire grossir les bulles produites. Il en résulte un phénomène dès lors qu'une pastille est mise en contact avec un liquide gazeux qui est la nucléation. Retenez bien ce terme.
Mais je l'avais, ça va vous servir.
L'intensité de l'effet avec l'interaction coca-manteau, c'est dû à la somme des ingrédients du coca et dans une moindre mesure à l'aspartame du manteau. Ça aurait été remarqué que cela peut fonctionner avec de nombreuses autres boissons gazeuses, pour votre information, oui, Fabrice. Oui. Néanmoins, celle au coca et plus particulièrement les light sont celles qui engendrent la plus forte réaction. Alors, si vous avez peur de manger ce bonbon après avoir bu un coca, n'ayez crainte. Il n'y a pas de risque qu'un tel geyser se produise dans votre estomac, puisque dès qu'un manteau se touche notre langue et notre salive, les fameuses aspérités responsables donc de cette réaction disparaissent. Les sucres, les constituants vont se dissoudre très rapidement. Alors, j'attends vraiment de voir le résultat en vidéo. Je vous vois bien vous plonger dans du coca avec une combinaison.
Mais je l'ai fait, mais par contre, ça n'a pas été médiatisé. C'est un Américain qui a remporté la palme de la médiatisation. Ça me fait un peu mal au ventre, tout ça.
Voilà, mais écoutez, on attend le résultat.
Allez, avec plaisir.
Fabrice, à la semaine prochaine.
Oui.
Voilà, avec d'autres aventures.
Forcément, de beaux invités. On a encore plein de sujets en tête. On va bientôt parler du cerveau. On va parler de repenser l'histoire du monde. Je vous donne quelques pistes. Vous le savez, on bosse ensemble sur ça. On va parler d'animaux fantastiques. Enfin bref, on va même aller vers la conscience. Des choses très étonnantes dans les semaines qui viennent.
Et on réécoute bien sûr cette émission en podcast sur bleu-rcfm.fr. Merci Fabrice.
Merci Christophe.